Bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Merci Seigneur pour cette matinée, pour toutes ces louanges, toutes ces chants, toutes ces prières, toute cette introduction. On dirait que tout est dans l'unité du message de ce matin. Tout est concentré vers le nom de Jésus. Amen. Voilà. Pourquoi je vous disais ça? C'est parce que j'ai reçu pendant cet été quelque chose à la suite de ce qu'on a entendu des frères et sœurs qui proclamaient la parole de Dieu. Et ça a changé l'orientation que j'avais dans mon cœur. Du coup, à partir de ce matin, j'ai reçu les messages qui vont venir, vont avoir comme thème « Demeurez en Christ ». Demeurez en Christ, c'est la volonté de Dieu. Demeurez en Christ parce qu'il a dit, comme je demeure en vous, demeurez en moi, de la même façon que je demeure en vous. Est-ce que Christ demeure dans nos cœurs? Il dit, de la même façon, demeurez, est-ce qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'il fait des choses super quand il demeure en nous? Donc, de la même façon, lui, le Dieu Tout-Puissant, il dit « demeurez en moi ». Dans la Bible, dans les évangiles, on entend souvent « suivez-moi, suivez-moi ». Mais là, le plan de Dieu, c'est pas, ça ne s'arrête pas à « suivez-moi », c'est « venez à moi ».« Suivez-moi, mais venez à moi ». J'avais ce verset qu'Alain a utilisé au début, qui devrait parler là-dessus, mais... j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Et finalement, c'est Alain qui le fait. À propos, il est la pierre vivante. Approchez-vous de lui. Donc, venez à lui. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Et pas seulement. Apprenez de moi, dit Jésus. Venez à moi, mais apprenez de moi après. Donc, c'est comme ça qu'on peut demeurer en Christ. Et pour citer... pour dire qu'on est dans l'unité avec Gabi et Alain, demeurer en Christ, c'est la seule façon d'être un vainqueur permanent. Et pas un vainqueur momentané, si vous rappelez du message de Gabi. Et donc, ça c'est le thème. Donc, demeurer en Christ, c'est une... Dieu nous invite à une union étroite, à une communion intime et à une merveilleuse unité de vie et d'action avec lui. Amen. Et le titre de ce message, ça va venir, mais simplement pour demeurer avec moi afin de rester avec moi. Quand j'ai des problèmes, j'appelle Jésus et après je m'en vais faire ma vie de tous les jours. Non, demeurer avec moi afin de rester avec moi, dit Jésus. Et le titre du message, c'est pour ce matin, Jésus, le vrai cep. J'étais interpellé, il y a eu plusieurs fois des messages sur ce... Enfin, on a évoqué ce verset dans Jean 15, et j'étais interpellé par ce mot, le vrai cep. Est-ce qu'il y a des faux ceps ou des vrais ceps? Et donc, ça m'a parlé dans mon cœur sur ce thème, demeurer en Christ, et le titre ce matin, donc, Jésus, le vrai cep. Jésus, le vrai Dieu. Le nom de Jésus est le nom le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout nom. Alors, le verset que je vais utiliser, qui va être le fond de message ce matin, c'est Jean 15, 1. Jésus qui dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Une belle image. On est une région où il y a le Beaujolais, n'est-ce pas? Qui n'a pas fait les vendanges? Moi, j'ai fait plusieurs fois les vendanges. En tout cas, c'est ça nous apprend beaucoup de choses. Et ce qui est frappant dans l'image de ce cep, on ne voit pas le tronc. On voit une image où il y a les feuilles, la vie, enfin, les grappes de raisin et tout, une unité. Donc, quand on dit le vrai cep, c'est vraiment l'ensemble des sarments et du corps. Hein, dans ce... Et ça parle déjà de l'unité. Et pourquoi Jean 15, 1, c'est un passage. Il y a Jean 15, Jean 14, Jean 15 et Jean 16. C'est une transition. Jésus était en train de préparer ses disciples avant d'arriver à la croix pour lui. Il leur a expliqué ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire. Et surtout, il leur explique comment ils vont procéder, comment ils vont devenir, et comment ils vont faire pour prolonger son œuvre quand il ne sera plus là. Dans Jean 14, ils étaient tristes parce qu'il allait partir. Il a dit, pourquoi êtes-vous découragés? Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais, mais je reviendrai. Donc dans cela, il est en train de dire clairement quelle est la façon dont vous allez être unis à moi quand je ne serai pas là physiquement. Et le message ce matin, demeurer en Christ, c'est comment je vais rester dans l'unité de vie et d'action avec lui. C'est une parabole ou une métaphore sur l'unité d'action, comme je dis, l'unité de vie, sur la communion profonde, pas seulement pour la communion, mais qui doit porter des fruits pour la gloire de Dieu. Et donc, Jésus était en train de préparer ses disciples, premièrement à son départ, deuxièmement à ce que, même s'il part physiquement, il va rester en communion avec eux, parce qu'il va continuer à agir à travers eux, à travailler avec eux pour la gloire de Dieu. Donc, ce que je vais parler ce matin sur ces points, le « je suis » qui est important, pourquoi on a un vrai cep et qu'est-ce qui fait le vigneron là-dedans dans notre vie spirituelle. Alors, « je suis », vous savez, ce terme, quand est-ce qu'il a utilisé, il a été utilisé dans la Bible, « je suis ». Quand Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament à Moïse pour l'envoyer en mission, et il lui a dit, mais comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je vais dire à tous mes collègues, à tous les Israélites, quand ils vont me demander? Parce qu'ils sont habitués à tous les dieux d'Égypte qui ont chacun un nom. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Comment tu t'appelles? Il a dit, bien sûr, je suis, ça veut dire l'éternel Dieu. C'est-à-dire celui qui s'appelle je suis, voilà ce qu'il a dit à Moïse, m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis, il a été vers nous ce matin. Il a été envoyé vers nous ce matin. Alléluia. Et le je suis que Jésus utilise, enfin, si vous regardez dans les évangiles, surtout l'évangile de Jean, c'est le septième je suis. Et le chiffre 7, c'est un peu la perfection. Il finalise un peu ce qu'il veut dire pour nous dans le je suis. Donc Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc dans son dialogue très difficile avec les Juifs et les autorités religieuses qui ne le reconnaissaient pas comme le Messie, pour leur expliquer, puisqu'ils connaissent les Écritures, avant qu'Abraham fût, je suis l'Éternel. C'est une première indication. L'objectif de mon message ce matin, du message que Dieu veut dire, c'est qu'on puisse prendre conscience au fond de notre cœur que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, Fils de l'homme, ok, sur terre, mais il est aussi Fils de Dieu, amen. Alors, mais ces choses ont été écrites, c'est Jean qui parle dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 20, presque à la fin, il a dit juste avant, il y a tellement de choses que Jésus a fait, tellement de miracles, mais on ne va pas tout dire. Mais ce que je veux vous dire, le plus important à retenir, c'est que, afin que croyiez que Jésus est le Christ. Jésus, ça veut dire quoi le Christ? Celui qui a été oint, celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire le Messie, Machia, Celui, donc Jésus, il faut qu'on croie. Hein, le seul objectif principal de l'évangile de Jean, c'est qu'on puisse comprendre que Jésus est le Christ. Et en plus, le Fils de Dieu. Amen. Et en plus de cela, une fois que nous avons cru à cela, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça qu'il faut demeurer en Christ, pour avoir la vie en son nom. Quand je m'éloigne de Christ, je n'ai pas la vie de Dieu. Quand je m'éloigne de Christ, la vie de Dieu n'est pas en moi. La connaissance du Fils de Dieu, c'est une puissance de vie pour nous les croyants. C'est une puissance qui est importante dans notre vie de croyants bien-aimés. La vraie question ce matin que je vous la pose, qui a été posée par Jésus et à laquelle il y a eu plein de réponses différentes, les réponses de la foi, les réponses de l'incrédulité ou d'autres. La vraie question, Jésus est-il le Fils de Dieu? On peut se la poser. Est-ce que dans notre entourage, quand on parle de Jésus, on dit le Fils de Dieu? Oh bon? Surtout chez, dans une autre religion, ils ne croient pas que Dieu a un fils. Jésus est le Fils de Dieu. Ou bien Jésus ce matin, chacun, on peut se poser la question, comment je crois? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Et je vais décliner les plusieurs réponses dans la Bible et qui va représenter un peu nos réponses à nous quand on est écarté de la foi. Par exemple, avec les disciples, vous connaissez ce passage, quand il est arrivé à Césarée, c'est aux frontières du Liban, Israël du Nord et Liban du Sud, il a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Comme s'il nous disait ce matin, « Qui dit-on ?» Que dit la foule à mon sujet? Qu'est-ce que vous entendez dire à propos de moi, Fils de l'homme? Et Fils de l'homme, c'est un mot important, c'est-à-dire que ça englobe toute l'humanité qui descend d'Adam. Qui a pris cette humanité dans sa chair, il est le Fils de l'homme. Mais il n'est pas que le Fils de l'homme, mais il veut savoir si, après tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait au miracle, qu'est-ce qu'il perçoive? Que perçoit la foule à son sujet? Est-ce que c'est seulement Fils de l'homme ou autre chose? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Apparemment, c'est des gens religieux. Ils écoutent, ils savent ce qui se passe. Jean-Baptiste, la puissance qui est venue pour annoncer la venue du Messie. Les autres, Élie, alors c'est très important pour les Juifs, Élie. Hein, ils ont tous... Ils pensaient qu'Élie va arriver, il y a l'esprit, la puissance de l'esprit d'Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Tiens, c'est des réponses religieuses. Est-ce que ça a satisfait ce que Jésus voulait entendre? Je ne pense pas. Après, il dit, mais et vous? Leur dit-il, ok, la foule dit ça. Mais vous, mes disciples qui me suivez, et vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Ah là là, c'est vrai, s'il nous dit ça ce matin, qu'est-ce qu'on va dire chacun? Et puis, hop, tout d'un coup, Pierre, qui est très impulsif, pof, il a dit, je vais te dire moi la réponse, je connais la réponse. Paf, c'était une bonne réponse. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Messie, le Machia, celui qui a été oint, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que on peut le confesser ce matin? Est-ce qu'on peut ne pas avoir un doute là-dessus ce matin? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous connaissez la réponse de Jésus, ce n'est pas la chair, ni le sang, ni ton intellect qui t'a dicté ça. C'est le Père et l'Esprit du Père qui t'ont montré ça. Bien-aimé ce matin, quoi retenir de ça? Nous avons grandement besoin de la révélation dans notre vie de tous les jours. Quand je me tourne vers Jésus, je me tourne vers un distributeur automatique, excusez-moi du terme, ou vers le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nous avons besoin, prions tous les jours, avoir dans notre vie la révélation d'en haut. Alors, cette question, Christ est-il le Fils de Dieu et Jean-Baptiste? Vous savez que Jean-Baptiste a eu, il a préparé le chemin du Seigneur, il a appelé à la repentance, il a prêché la bonne nouvelle du royaume, il a dit, il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a dit, il faut que je diminue, et il faut qu'il croisse. Et à un moment donné, il était jeté en prison. Alors il a commencé à avoir la foi qui va défaillir. Il a commencé à avoir des doutes. Il a envoyé ses disciples dire à Jésus quelque chose. Après, arriver auprès de Jésus et dire, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, écoutez-moi, es-tu celui qui doit venir? C'est-à-dire, es-tu le Messie? Ou bien, devons-nous en attendre un autre? J'en ai marre d'être en prison, t'aurais dû me délivrer de prison. La foi de Jean-Baptiste, comme notre foi bien-aimée, peut connaître des moments d'éclipse. Est-ce que vous vivez ça? Des moments de doute, hein, d'éclipse. Mais ce n'est pas de disparition, c'est d'éclipse. La réponse de Jésus, quelle était? Il n'a pas dit, allez dire, mais oui, mais je suis le Messie, mais je vais mourir et après je reviendrai comme le Messie. Ce n'est pas comme ça que Jésus procède. Il dit simplement, venez et voyez. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, mais ces paroles... Ésaïe 61, c'est ce que Jésus a annoncé pour dire qu'il était le Messie arrivé. Voilà ce que le Messie fait. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation d'en haut. Quand autour de nous, vous savez, on prie, on est guéri miraculeusement, ok? Une semaine après, on a un problème. Bon, Dieu m'achète. Regardez ce que dans votre vie Dieu a fait comme miracle. Et tout ça, ça vous aide, ça nous aide quand il y a des problèmes pour dire bah, Dieu est là, le Messie est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Simplement, il faut voir, reconnaître qu'il est là et il agira. Il agira à chaque fois qu'on a besoin. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas tout de suite que je veux dire, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, tu me laisses dans la panade comme Jean-Baptiste. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est, je suis, alléluia. Eh bien, le je suis par rapport à l'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul, c'est un zélé, connaît la Torah, il connaît tout. La Bible de l'Ancien Testament, et il était très zélé pour aller attraper tous ces gens de la nouvelle secte avec Jésus de Nazareth à la tête. Il a prenait les missions pour aller les attraper et les mettre en prison. Pourtant, il connaît bien toutes les Écritures. Et vous connaissez le chemin de Damas et ce qui s'est passé tout d'un coup, une lumière, il est tombé par terre avec ses compagnons. J'aime bien le dialogue entre lui et le Seigneur. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a prononcé le nom du Seigneur quand il a vu Jésus dans la gloire. Est-ce que nous voulons voir Jésus dans la gloire? Quand on est dans la panade, « Seigneur, montre-nous ta gloire !» Il a vu Jésus dans la gloire. Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus. » Que tu persécutes. Oh, Est-ce que vraiment il persécutait Jésus, l'apôtre Paul? Eh bien, justement, à travers les chrétiens, c'est lui qui est persécuté. Et là, la douleur, écoutez bien, infligée aux membres du corps sur la terre est ressentie par la tête du corps au ciel. Rappelons-nous de cela quand on a un problème. Oh, Jésus est au courant. Il va venir à notre secours. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce matin, qu'on puisse dire, premièrement, « Seigneur, qu'on voit Jésus dans la gloire. » Et deuxièmement, « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui, demain, dans la situation où dans laquelle je suis dans l'impasse ?» Que veux-tu que je fasse? Et vous connaissez bien sa vie, il n'arrête pas de parler de Jésus et de dire, bon, il y a tellement de versets, ce verset qui résume un peu la conséquence de cette rencontre avec Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire ce matin qu'on a été saisi par Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, tu nous as saisis par ton amour et nous voulons continuer et demeurer en toi ce matin. Alors, une autre catégorie de personnes, les autorités religieuses. Vous connaissez bien un peu leur relation avec Jésus, on va dire, ils sont aussi incrédules les uns que les autres quant à la personne de Christ. Ils n'arrêtaient pas Jésus dans leur dialogue de dire « je viens du Père, je procède du Père, je fais ce que le Père me montre. » Et qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est un peu, ils ne voulaient pas, ayant un cœur incrédule, alors, à un moment donné, ils ont dit clairement, « Qui es-tu ? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Là, c'est pareil. À chaque question, Jésus ne dit pas directement, « Je suis le Messie. » Parce qu'il est le Messie souffrant quand il était sur terre. Ce n'est pas le Messie conquérant. Mais il a dit simplement, je vous ai tellement répondu des choses, vous avez vu des miracles, je vous ai dit, et même avec ça, ils avaient le cœur endurci. Ils ne voulaient pas entendre, parce qu'ils se sont mis dans la tête, ce n'est pas cette personne-là qui va être le Messie, n'est-ce pas? À un autre passage, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Mais sincèrement, s'il répondait « Je suis le Christ », est-ce qu'il allait croire en lui? Ils avaient déjà le cœur endurci. « Tiens, si tu es le Christ », c'est une autre phrase qu'on a entendue ailleurs aussi. Ça vous dit quelque chose? Les deux brigands à la croix. « Si tu es le Christ », au début, « Sauve-toi et sauve-nous et descends de la croix ». Et puis, un des deux, dans la foulée, il a été touché par la grâce de la présence de Jésus. Il a été touché par une révélation d'en haut. Qu'est-ce qu'il a dit après? Tais-toi, ne crains-tu pas Dieu? Et après, il lui a demandé, est-ce que je peux être avec toi au paradis? Quand tu reviendras, il a utilisé le futur. Et Jésus a répondu, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est important de connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Même si on a des problèmes, on peut dire, oh, tu m'embêtes, Dieu, moi, j'ai plein de problèmes, j'ai pas le temps de venir avec toi. Non. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce que tu crois dans ton cœur, c'est ça qui va t'apporter la vie ou la vie ailleurs en enfer. Et puis, j'aime beaucoup ce verset quand il leur dit, il nous dit ça ce matin. Il leur met vraiment cette fois-ci sur la piste pour comprendre qui il est. Il a dit, mais vous sondez les Écritures. Est-ce que vous sondez les Écritures? Est-ce que vous lisez vos Bibles? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il suffit de lire et prier, et tout de suite tu as la révélation de Jésus. La révélation. Demandez à, en lisant la Bible, au Saint-Esprit de nous révéler Jésus. Vous sondez les Écritures. Sondez, ce n'est pas seulement vous lisez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Elle parle de moi. D'ailleurs, à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs ou ailleurs, il dit, mais je vous ai toujours dit, vous, toute l'ancienne, toutes les Écritures parlent de moi. Et vous voulez parler. La loi, les prophètes, Moïse, ils parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils lisent la Bible, la Torah. Ils la lisent tous les jours, 10 fois, 100 fois par jour peut-être. Mais ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Alléluia. Est-ce qu'on vient, on veut ce matin venir à Jésus pour avoir la vie? Si quelqu'un a soif, c'est l'appel de Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire que ces autorités, ils n'ont pas soif du Dieu vivant. Ils ont soif de leur intellectuel, de leur intellect, de tout ce qu'ils peuvent lire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et puis qu'on soit comme David ce matin. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur ce matin afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le côté « je suis ». Maintenant, mon Père, Jésus qui dit « mon Père est le vigneron ». Mon Père est le cultivateur. Ce mot « mon Père », est-ce que vraiment on a la liberté de le dire ce matin ?« Mon Père », à Dieu. Et c'est là ce que Jésus veut montrer à ses disciples, cette relation, cette connexion forte et intime avec son Père. Et c'est ce qu'il veut expliquer, d'ailleurs dans Jean 17, dans sa prière, il montre, il prie pour ses disciples, il leur dit qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, nous sommes unis. Donc, ici Jésus veut parler d'une unité d'action, entre le Père et le Fils. Et de la même façon, cette unité d'action, il faut qu'elle soit entre nous et Jésus. Tout ce que le Père, écoutez bien, le travail du Père, le travail du vigneron, c'est lui qui va régulièrement voir la vigne, c'est lui qui la nettoie, c'est lui qui la taille, c'est lui qui la lave. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Donc c'est le travail du Père. Et voilà le travail du Fils dans l'unité avec le Père. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et dans la prière que je viens de citer de Jésus, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi ? Afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Nous avons été attirés à Jésus par Dieu le Père. Alors tout le monde peut être sauvé, mais est-ce que tout le monde est sauvé ? Il faut que je vienne à Jésus, il faut que j'accepte de venir et je crois en lui. La discipline du Père afin de porter du fruit. Donc, j'ai parlé du Père qui s'occupe de la vigne, bien sûr, il la nettoie, mais il aussi discipline, c'est-à-dire il taille, il émonde. C'est ce qu'on appelle la discipline dans notre vie avec notre Père. Nos Pères nous disciplinaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous discipline pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu travaille dans nos vies qu'il nous rende semblables à Christ. Voilà cette unité qu'il y a entre Dieu et le Fils. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça sera vraisemblablement le message prochain. Mais voilà le travail du Père comparativement au travail du cultivateur. Alors l'unité entre les sarments et le cep découle aussi du travail et des soins du vigneron. Parce qu'il travaille en harmonie, en parfaite harmonie. C'est pour ça la vigne, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de... Voilà, ça porte beaucoup de fruits. Alors le dernier point, quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Est-ce qu'il y a un faux cep, une fausse vigne? Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles liées à des arbres, mais en tout cas, la vigne est utilisée principalement pour représenter Israël. Alors, quel était le fruit? Là, comme Alain l'a dit samedi dernier, il y a une confrontation de divinité. Qui est le vrai Dieu? Entre Dieu le Père, Dieu le Fils ou les autres dieux? Dans le psaume 80, verset 8, écoutez bien, tu y avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le voyage jusqu'à la terre promise, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Vous avez le lait, le miel, enfin, plein de bénédictions, mais surtout, chassez ceux qui sont en place. Ne vous mariez pas avec eux, ne prenez pas, les dieux des autres nations qui sont sur place. Je suis le seul vrai Dieu. Mais est-ce qu'ils l'ont fait, ça? Dans Jérémie 2:21, je t'avais planté comme une vigne excellente. C'est Dieu qui parle. Tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Et du meilleur plan. Alors, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a que lui comme le vrai Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Comme s'il nous disait ce matin, quand notre cœur s'éloigne de lui, mais je t'ai planté, j'ai fait plein de bonnes choses avec toi. Pourquoi tu me laisses comme ça pour aller regarder l'horoscope, pour aller faire ceci, pour chercher d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice? Écoutez, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Il a dit, j'ai tout fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Et vous n'avez pas tenu compte que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait, écoutez bien, de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Vous savez, en tant que chrétien, on peut produire de mauvais fruits. Tout en étant chrétien, c'est des vainqueurs momentanés. Et si on avance, la vraie vigne est celle qui produit des fruits pour la gloire de Dieu. Dans Osée 10:1, Israël est une vigne. Écoutez, là, je n'ai pas bien compris, mais j'ai regardé plein de traductions pour comprendre c'est quoi une vigne branchue. Il y a des traductions qui disent féconde, d'autres feuillues, c'est-à-dire... C'est une belle vigne, il y a plein de choses dedans. Mais elle n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas de fruit à la gloire de Dieu. Il dit, il porte du fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il multiplie, écoutez bien, les autels. À chaque fois qu'il se marie avec, je parle de l'Ancien Testament, avec quelqu'un, il va adopter les idoles ou les dieux. les coutumes, et voilà, il fait un autel. On multiplie les autels alors qu'on a le seul vrai autel pour le sacrifice de Dieu. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié les autels. Selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues. Tout ça pour dire l'adultère, l'idolâtrie, tout ça, ça nous éloigne de Dieu. Et Dieu ce matin veut dire, revenez à moi, demeurez en Christ. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait ? Qui se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur ? Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Je ne veux pas qu'on entende ça pour nous ce matin. Mais voilà le constat que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il y a eu la déportation. Une épreuve pour qu'ils retrouvent la gloire de Dieu. Attention au cœur partagé. Nous avons besoin d'avoir des cœurs entiers pour Dieu. Des cœurs entiers pour Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai cep. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire celui qui vient de Dieu et non de l'homme. Alors ce plan de vigne devait être, vous l'avez compris, restauré en Jésus-Christ. Avec tout le constat que Dieu a fait, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il est le vrai cep, la vraie vigne. Le Seigneur Jésus-Christ étant le vrai cep, il est celui qui, dans chaque détail de sa vie d'homme sur la terre, porte le fruit excellent qui satisfait le cœur de Dieu. C'est comme ça, en tant que croyant, on doit vivre, porter des fruits pour la gloire de Dieu, selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, il l'a dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est pour ça qu'il est appelé le vrai cep, la vraie vigne. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa dernière prière avant la croix, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et dans les prières de ce matin, il a tout accompli. Il était en parfaite harmonie avec ce que Dieu, le Père, lui a demandé dans le plan qu'il a demandé à venir sur la terre. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas les musiciens pour avoir le Jérôme, la musique. Oui ? Merci. Bien. Jésus-Christ, écoutez bien, ne sortez pas sans avoir encore entendu ce que je viens de dire. La dernière et ultime révélation de la personne de Dieu, Jésus, le Christ. Pourquoi ? Dans Hébreux 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Autrefois, Dieu a utilisé d'hommes pour parler, il lui a donné son esprit pour parler au peuple, pour communiquer au peuple ses plans, ses lois, si je peux dire, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Mais c'était quelque chose de préliminaire, ce n'était pas définitif, c'était progressif en plus, pour arriver à quelque chose d'accompli. Et vous l'avez compris, Dieu, dans ces derniers temps, est-ce qu'on est dans les derniers temps ? Donc, Dieu, dans ces derniers temps, qu'est-ce qu'il a fait ? Nous a parlé par le Fils. Alors, toutes les religions, je suis désolé de le dire, qui viennent après, qui disent, oui, ils ont parlé, nous, on parle de Jésus. Non, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il ne parle plus par d'autres. Il parle par les disciples de Jésus, mais c'est par le Fils que Dieu a définitivement accompli ce qu'il voulait nous dire par le Fils, qu'il a, écoutez bien, établi héritier de toutes choses, de tout l'univers, par lequel il a aussi créé le monde. C'est là qu'on peut dire, si Jésus, si je me crois ce matin, Jésus est le Fils de Dieu, parce que lui, il a créé le monde aussi. Tout l'univers lui appartient. Il y a donc deux révélations successives. L'une au moyen des hommes, c'était l'ancienne, et celle-là aujourd'hui par le Fils. Et cette nouvelle révélation de Dieu par le Fils surpasse l'ancienne en vie et en gloire. Amen. Ce Fils, écoutez bien, c'est le dernier parmi les derniers versets avant de prendre la Sainte Cène. Ce Fils, écoutez bien, qui est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pour ça, c'est vrai, je prie pour qu'on puisse avoir la révélation de Dieu, de Jésus dans la gloire. Parce qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. En toute chose, Christ est la représentation exacte du Père. Toute chose subsiste en lui. On peut lire ça dans Colossiens. La connaissance de cette nouvelle révélation est une force pour la foi et pour notre vie chrétienne. Que nous puissions avoir ce matin, Seigneur, cette révélation de la connaissance du Fils de Dieu, révélation de Dieu le Père.